la première.
22h, 23h.
Oui.
Par oui dire.
Oui, oui. Pascal Tison.
Serge Latouche, économiste français, est un des penseurs de la décroissance. Paola Steven l'a rencontré et nous livre ses propos entrecoupés de respirations sonores. Mot d'ordre des gouvernements de gauche comme de droite, la croissance constitue-t-elle un piège? Fondée sur l'accumulation des richesses, elle est destructrice de la nature, génératrice d'inégalités sociales. Durable ou soutenable, elle demeure dévoreuse du bien-être. C'est donc à la décroissance qu'il faut travailler.
L'obsolescence. Voilà un bien grand mot, un mot en quatre syllabes, un des trois piliers de la société consumériste avec la publicité et le crédit. Les premières fois que je parlais d'obsolescence, les gens ouvraient souvent des grands yeux. En revanche, nous avons tous été victimes de l'obsolescence programmée. Nous avons tous l'expérience qui d'une machine à laver, qui d'un poste de télévision, qui d'un ordinateur qui tombe en panne. Et le discours du vendeur est généralement de ce type. Il dit « Bon, il y a de l'électronique, là on n'y comprend rien ». C'est indissociable, on est assez tout moulé ensemble, donc on ne peut pas démonter même quelque chose d'aussi simple qu'un grille-pain. Il faut vraiment avoir des instruments spéciaux. Ou bien, ce qui arrive encore pour les ordinateurs, bah, ça serait réparable. Hein. Bon, il faut changer le disque dur, ça va vous coûter 50 à 60 ou 80 euros. Dans 3 mois, c'est la carte mère qui va tomber en panne, ça vous coûtera encore une centaine d'euros. Écoutez, je vous conseille maintenant, votre ordinateur, il a 3 ans. On en a en promo, ça vient directement de Chine, c'est fait par des gens qui sont payés au lance-pierre, ça coûte presque rien. Donc, votre ordinateur, vous le mettez à la poubelle et vous en rachetez un neuf. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ainsi que chaque mois partent 800 bateaux qui sont bourrés jusqu'à la gueule d'ordinateurs qui peuvent encore marcher ou de téléphones portables, qui contiennent des métaux rares pour lesquels les firmes multinationales se font la guerre par tribus africaines interposées dans l'est de ce pays ex-belge qu'est le Congo. Le Kivu, ceux qui connaissent, moi j'y ai vécu, donc, où on continue à se massacrer pour contrôler les mines de coltan, un mélange de colombine et tantale. Et donc, quand vous prenez votre téléphone portable, et bien, si vous faites bien attention, vous voyez le sang des Congolais qui dégouline. Tous ces appareils contiennent des métaux qui, dans quelques années, nous feront défaut, parce que les mines s'épuisent, eh bien, moins de 10% des téléphones portables sont collectés pour les appareils électroménagers, etc. C'est 1 million sur 23 millions vendus chaque année. Et qu'est-ce qui est programmé pour être jeté comme ça après une durée de vie et qui n'est plus réparable? À peu près tout. Comme dans les années 60, aux États-Unis, le grand sociologue Vance Packard, qui est l'un des premiers, et le premier probablement à avoir dénoncé l'obsolescence programmée, dans un très beau livre qui s'appelle « L'ère du gaspillage »,« The Waste Makers », les fabricants de déchets, est allé voir les associations de consommateurs. Et il a demandé au responsable de l'association, Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui n'est pas jetable? Elle m'a dit, je ne vois guère qu'un produit, le piano. On est dans l'ère du jetable. Quand, comme ça m'est arrivé, par 35-40 degrés, votre frigidaire tombe en panne, un frigidaire superbe, que vous êtes dans une île, la Sardaigne en l'occurrence, à 20-30 km du moindre bled, et de toute façon, pour faire venir quoi que ce soit, c'est importé du continent, et puis vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le changer, alors qu'il suffirait de changer une petite pièce pour que ça remarche, et bien vous êtes dans la merde. Alors, le mot obsolescence est un mot récent, bien qu'il vienne du latin, participe présent du verbe obsolérer. Il arrive en français à travers l'Angleterre. Et c'est pas tout à fait un hasard, parce que l'Angleterre, pays de la révolution industrielle, donc ils incorporent ce terme obsolescence, d'après les dictionnaires, en 1828, et ça débarque en France beaucoup plus récemment. Bon, je crois que les économistes l'utilisaient déjà depuis un certain temps. En revanche, le mot obsolète, hein, qui vient lui-même verbe solérer, obsolérer, bon, qui veut dire hors d'usage, existait déjà depuis le XVIe siècle. Et pour la petite histoire, donc on trouve en latin obsoletus, participe passé du verbe obsolérer, on trouve chez Cicéron obsoletus dans le sens un homme souillé, c'est un homme hors d'usage. C'est assez amusant parce qu'on va retrouver l'obsolescence de l'homme dès l'origine. Alors quand le mot obsolescence apparaît en 1828 en Angleterre, c'est dans le sens de l'obsolescence technique. En France aussi, c'est d'ailleurs le seul sens attesté encore jusqu'à aujourd'hui dans les dictionnaires, francophones en tout cas. Alors l'obsolescence technique, c'est le fait pour un équipement, pour un objet, pour une machine, d'être mis au rancard, hors d'usage, non pas en raison de son usure physique, mais parce qu'on a, dans l'intervalle, mis au point des équipements, des machines, des objets plus performants. En tant que telle, l'obsolescence technique, qui est donc l'usure que les économistes appellent l'usure morale par opposition à l'usure physique, est aussi vieille que l'homo faber, puisque la hache de bronze rend la hache de pierre obsolète. Mais évidemment, si ça apparaît en 1828 en Angleterre, c'est pas un hasard, parce qu'avec la révolution industrielle, ce processus de mise au rancard à cause du progrès technique s'accélère. Les diligences sont massivement mises au rencard par le développement des trains, des moyens de locomotion, et puis progressivement tout. Ça a un impact très important parce que ça va changer non seulement nos modes de consommation, mais aussi nos modes de production, parce qu'à partir du moment où les entreprises doivent renouveler leur matériel, non pas parce qu'il est arrivé en fin de course après une usure assez longue, mais beaucoup plus rapidement parce qu'on a mis au point des appareils plus performants et qu'avec la concurrence, si elles n'acquièrent pas les matériels les plus productifs, les plus performants, elles vont faire faillite. Ces matériels qui n'ont une durée de vie beaucoup plus limitée, il faut les faire travailler pendant leur petite durée de vie au maximum, d'où le développement du travail posté, du travail de nuit, des 3x8, qu'il faut que le matériel soit rentabilisé 24 heures sur 24 parce qu'il ne va pas durer longtemps. Plus les matériels sont sophistiqués, plus ils sont atteint d'obsolescence technique. Mais il existe, à côté de la mort technique des objets, il existe une autre forme d'obsolescence, c'est l'obsolescence symbolique précisément, ou obsolescence psychologique, ou encore obsolescence esthétique. C'est essentiellement le phénomène de la mode. Alors, la mode touche énormément de choses, effectivement. Elle est aussi, sinon aussi vieille que l'homo faber, en tout cas aussi vieille que l'homo sapiens sapiens. Il y avait des modes dans la Rome ancienne. À Pompéi, vous avez des modes de décoration. On a Pompéi 1, Pompéi 2, Pompéi 3, des styles ornementaux qui varient. Pendant toutes les dynasties françaises, chaque roi avait à cœur de lancer une mode différente. Donc on a le style Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVII, Louis XVII, Louis XVIII, ça s'arrête, ils n'ont pas su compter jusqu'à 20, comme disait Prévert. Donc on a des modes, et puis là encore, si c'est un phénomène ancien, ça va s'accélérer avec le développement du capitalisme, et surtout avec le développement de la production de masse, parce qu'il faut produire toujours plus, donc consommer toujours plus. Donc si on n'arrive pas à l'usure technique, etc., il faut arriver à l'usure symbolique en persuadant les gens qu'il faut changer de robe, qu'on lance la mode de la jupe courte. On met les jupes longues au rancard, puis l'année suivante, on met les jupes longues. Il faut racheter des jupes longues. Pour les hommes aussi, c'est pareil. Les couleurs de cravate, les pantalons à pattes d'éléphant, les pantalons moulants, les voitures, les appareils, à peu près tout, de plus en plus. On a donc deux formes, jusque très récemment, deux formes attestées d'obsolescence, l'obsolescence technique et l'obsolescence symbolique ou psychologique ou esthétique. Et ce dont je vais parler surtout, effectivement, c'est une troisième forme, c'est l'obsolescence programmée ou planifiée, planned obsolescence. Alors, la définition, c'est le fait que la durée de vie d'un équipement, d'un objet, est prévue dès sa conception par l'introduction d'éléments de défaillance, de façon que ça tombe en panne au bout de 2 ans, 3 ans, ça dépend, de manière à nous obliger à en réacheter, à renouveler la consommation. Le mot apparaît en 1932, avec un essai d'un entrepreneur millionnaire, Bernard London, et qui, au milieu de la Grande Dépression, en 1932, donc, écrit un petit essai qu'il publie à compte d'auteur, intitulé « Ending the Depression through mettre fin à la dépression, planned obsolescence ». Alors voilà, grâce on va dire à l'obsolescence programmée, mais personne ne savait ce que c'était que l'obsolescence programmée à l'époque. Donc en fait, il faut comprendre, grâce à la planification de l'obsolescence. L'époque est à la mode de la planification. Tous les pays occidentaux sont en crise. Chacun cherche, comme aujourd'hui, la recette pour sortir de la crise. Et Bernard London fait partie de ces faiseurs de système, tu vois, qui a lui aussi sa recette miracle. Ben, il dit c'est très simple, pour sortir de la crise, il faut planifier l'obsolescence, l'accélérer. Et donc il prévoit très précisément qu'il doit y avoir un organisme du plan avec des ingénieurs qui vont décider que les gens doivent rapporter leur voiture au bout de 2 ans, hein, on leur donne un bon en échange pour acheter une nouvelle voiture, la voiture pourrait continuer à fonctionner. Mais les maisons, il faut les reconstruire au bout de 10 ans, donc on détermine pour chaque matériel une death dating, une date de mort. Si vous les rapportez, vous touchez un bon, si vous ne les rapportez pas, vous payez une amende, vous avez une pénalité. Il avait inventé un système que nos gouvernements ont mis en place plus récemment, la prime à la casse. Qu'est-ce que c'est la prime à la casse? C'est ça. Vous avez une voiture qui marche parfaitement, mais elle a 5 ans, on vous donne une prime pour en acheter une neuve et mettre l'autre à la casse. Maintenant, on l'a fait, mais on se dit, on peut plus, ça coûte cher, on est en austérité, donc on hésite à le faire de nouveau. Et alors Bernard London est un philanthrope. Et il préconise ça, et c'est pas du tout mal vu, au contraire, c'est très populaire aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, tout le monde est convaincu, plus ou moins, que ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis et même pour le reste du monde. Quand le mot va débarquer en France, il va débarquer toujours avec le mauvais esprit des Français, avec une connotation négative, en disant « mais c'est du gaspillage, c'est scandaleux ». Mais ce n'est pas du tout la perception américaine. Alors, j'évoquais General Motors. En pratique, la première occurrence importante de l'obsolescence programmée, c'est précisément avec General Motors, 1923 exactement, le conflit, la guerre entre Ford et General Motors. Alors, Henry Ford, représentant du capitalisme puritain, fier d'avoir mis au point la Ford T, dont il va sortir je ne sais combien de dizaines de millions d'exemplaires, la Ford T, c'est le symbole de ce qui est robuste. Donc la Ford T, c'est inusable. La Ford T, c'est pas très beau, c'est pas très élégant. Comme on dit, si ça s'arrête, vous donnez un coup de pied, ça repart. Bon, comme disait Ford, vous pouvez la choisir de toutes les couleurs que vous voulez pourvu qu'elle soit noire. Face à ça, arrive à la division Chevrolet de General Motors en 1923, Alfred Sloan. Alfred Sloan vient du design. Et lui, il se dit, je ne battrai pas Ford sur la qualité technique de ses voitures. Mais en revanche, je vais jouer sur le look. Je vais séduire la clientèle féminine en présentant des modèles de Chevrolet de diverses couleurs. Ils misent tout sur les enjoliveurs et ils lancent chaque année un modèle différent. Et ça marche. Avec une bonne campagne de pub, des Chevrolet avec des belles pin-up, les femmes en raffolent, les hommes aussi. Faut dire que la Ford T, fallait la démarrer à la manivelle, hein, c'était une voiture masculine. Tandis que là, Ford résiste, en disant, mais enfin, et il a une vision rationnelle, il dit quand même, ce que les gens veulent, c'est des choses qui durent. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. C'est le triomphe déjà du marketing. Au bout de quelques années de résistance, Ford capitule et il fait la même chose. Les gens changent de voiture, non pas parce qu'elle est atteinte de mort technique, mais tout simplement parce qu'elle est atteinte d'usure psychologique. Et ça nous amène déjà dans l'après-guerre, parce que ça se calme. En 1943, le président Roosevelt demande aux industriels de l'automobile de fabriquer des chars d'assaut et d'arrêter de faire des voitures. De 1943 à 1946-1947, on fait des chars d'assaut. Alors, dans les années de l'après-guerre, donc, va se développer ce qu'on appelle l'ère du jetable. Pour que se développe l'ère du jetable, l'apogée de l'ère du jetable, c'est les années 60, eh bien, il faut persuader les gens que les objets, on appelait ça des biens d'équipement, donc on s'équipait pour la vie. Les gens, en se mariant, avaient un trousseau, c'est la vaisselle, les meubles, le linge, on se mariait avec, on mourait avec, et même on en transmettait une bonne partie aux générations après. Non, c'est pas bien du tout. Il faut changer continuellement de tout, de mobilier, de... Alors, le jetable, il y a une archéologie du jetable. Et là encore, c'est aux États-Unis que ça se passe. Dès les années, la fin du 19e siècle, les États-Unis, société encore de conquête vers l'Ouest, massivement d'hommes, beaucoup moins de femmes que d'hommes. Ces hommes sont célibataires, ils ont du mal à faire la lessive, on invente les cols jetables et les manchettes jetables. Alors c'est des cols et des manchettes en papier, bien fait, on peut écrire dessus, je ne sais plus dans quel film le Chaplin, ces manchettes foutent le camp au moment où il danse, il avait écrit dessus les paroles d'une chanson et il est obligé d'improviser. Oui. Déjà en 1872, aux États-Unis, on vend 150 millions de cols et de manchettes jetables. Ensuite, on développe le jetable avec des bons arguments, d'ailleurs, du point de vue sanitaire. Avant, on avait des préservatifs durables. Là, les préservatifs, bon, c'est quand même plus sain, probablement plus hygiénique, plus sympathique d'en changer que de laver. Les serviettes hygiéniques. Alors, les serviettes hygiéniques, c'est aussi du matériel de guerre. Ça débarque avec la guerre 14. Pour soigner les blessés, etc., on a besoin de cellulose. Mais on a des stocks de cellulose à la fin de la guerre dont on ne sait pas que faire. Idée géniale, on va transformer les celluloses en serviettes hygiéniques. Mais ça restait quand même relativement limité, malgré l'apparition aussi, dès 1895, du rasoir jetable, King Comb Gillette. Alors, il y a les voitures jetables. Et alors, là, on a appelé ça la culture de Détroit, parce que Détroit était la Mecque de l'automobile. Les responsables de l'industrie automobile disent aux autres industriels, mais faites comme nous, soyez pas des cons. Alors le cas vraiment pur où là les entreprises ont été prises la main dans le sac, 1924, c'est le cartel Phébus. De quoi il s'agit? Eh bien, un certain Noël 1924, les principaux fabricants d'ampoules électriques se sont réunis à Genève, on est vraiment dans le complot, et ont fait un cartel. Et ils ont décidé que les ampoules ne devaient pas avoir une durée de vie de plus de 1000 heures. On appelle ça le cartel des 1000 heures. Toutes les entreprises devaient respecter, les entreprises qui ne respecteraient pas les engagements auraient des pénalités, etc. Ça a été prouvé, on a toutes les preuves, tous les documents de l'existence de ce cartel. Il y a eu des poursuites pénales, ils ont été condamnés à des sommes dérisoires et ça n'a rien changé. Mais là, on a un très beau cas, mais c'est pratiquement le seul. Alors que techniquement, vous avez une ampoule à Livermore en Californie dans la caserne des pompiers qui, à l'heure où je parle, brûle encore et vous pouvez le vérifier sur Internet. Et cette ampoule brûle depuis 1902. C'est une ampoule à filament de carbone qui a été fabriquée en 1896. En 1896, on faisait des ampoules à durée de vie éternelle. Dans le train, là, j'étais en train de lire un essai des textes de Fourier, vous savez, le socialiste utopique de Fourier. Et Fourier disait, il parle de matériel éternel. Et c'est vrai, on pourrait faire des ordinateurs qui dureraient. Alors, dernier point sur le domaine de l'obsolescence programmée, c'est la malbouffe. On comprend bien que dans le domaine des équipements, il faille renouveler comme ça. Mais on se dit dans le domaine alimentaire, puisque les biens fongibles, à la différence des biens d'équipement, les biens fongibles disparaissent par le premier usage, donc on ne voit pas la nécessité d'accélérer. Mais à partir du moment où vous êtes dans l'agriculture productiviste, dans les chaînes de supermarchés, avec la grosse, grande distribution et des circuits longs, hein, à ce moment-là, les produits ont une durée de vie limitée, et donc c'est la pratique du death dating, date de péremption. Théoriquement, pour protéger le consommateur, les législations imposent, n'est-ce pas, des dates qui sont généralement décidées par les lobbies de l'agroalimentaire. Un yogourt, tout d'un coup, ne devient pas inconsommable du jour au lendemain. Ça dépend de la façon dont il a été conservé, si le yogourt a été refroidi, etc. Même chose pour la viande, bien évidemment. Bon, les clochards mangent des produits périmés, ils n'en sont pas malades. Et c'est comme ça que 40%. 40% des produits alimentaires qui sont vendus dans les supermarchés vont directement à la poubelle sans être jamais consommés. Alors 20%, ça vient des supermarchés eux-mêmes parce qu'ils vident leurs réserves quand la date de péremption est dépassée. 20% des consommateurs qui ont rempli leur caddie, rempli leur frigo, etc., et qui laissent passer la date de péremption aussi. Hein, et donc, des monceaux de pain sont mis chaque jour à la poubelle, des monceaux de viande subissent le même sort, et des monceaux de tout ce qu'on veut. L'ancêtre européen de l'obsolescence programmée américaine, c'était cette pratique dénoncée par tous les socialistes utopiques, dénoncée par William Morris, dénoncée par Fourier, par Paul Lafargue, Marx aussi, qu'on appelait l'adultération des produits. Alors l'adultération des produits, c'était exactement ce qui se produit avec les implants, les prothèses mammaires faites avec du silicone de mauvaise qualité. Alors là, vous avez un double effet, généralement, parce que, bien sûr, pour faire du profit, il faut que les gens consomment plus ou bien qu'ils consomment des produits qui coûtent moins cher. Bon. Alors, l'idéal pour le producteur, c'est que ça coûte moins cher et que les gens en consomment plus. Pourquoi les produits sont pas durables? Pourquoi, par exemple, la machine à laver tombe en panne? Bon, maintenant, on fait des machines à laver en tambour en plastique. Pourquoi on met des tambours en plastique? Ça coûte moins cher que des tambours en métal et ça pète plus vite. On a un double effet. Eh bien, c'était déjà et très bien analysé chez Lafargue, avec beaucoup d'humour. Il dit les entrepreneurs introduisent des tas d'éléments de défaillance dans leurs produits. Ils le font dans un but philanthropique. Comme ça donne du travail aux ouvriers. Nous verrons que c'est ça l'un des gros problèmes pour lutter contre l'obsolescence programmée. Parce que en période de chômage, il faut changer de bagnole. Sinon, Peugeot, Citroën ferment leurs portes et donc mettent sur le pavé 20 000, 200 000, 300 000 ouvriers. Alors finalement, cette obsolescence programmée finit par, de proche en proche, devenir une culture. Et donc les hommes eux-mêmes deviennent objets d'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'ils entrent dans cette culture du jetable. On en arrive à l'obsolescence de l'homme. Obsolescence de l'homme à la fois technique, parce que avec l'automation, maintenant et tout ça, ben l'homme devient inutile. Depuis que Big Blue a battu Kasparov aux échecs, eh bien, on voit que la machine est beaucoup plus compétente que l'homme, est beaucoup plus performante, et donc l'homme peut disparaître. Il disparaît d'ailleurs dans l'entreprise qui n'est pas rentable, bon, on le met au chômage. Comment lutter? Eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'évidemment, la logique qui est à la base de l'obsolescence programmée, c'est tout simplement, c'est au cœur même de la logique de la société consumériste. Pour produire toujours plus, eh bien, il faut consommer toujours plus. Et pour consommer toujours plus, comme notre estomac a une capacité malgré tout limitée, pour accélérer ça, eh bien, il faut saboter. Autrefois, on avait une horloge comptable pour l'heure qu'on se transmettait en génération en génération. On a inventé la montre jetable. Par conséquent, toute tentative de contrecarrer se heurte au lobby de l'industrie, de l'économie. Mais, voilà, ça c'est un volet. Un aspect de la difficulté. L'autre aspect, c'est que ça se heurte à la complicité des consommateurs. Les téléphones portables ont une durée de vie, normalement, de 6 ou 7 ans, mais les gens les changent au bout de 18 mois. Alors, ils y sont incités avec la publicité et des campagnes du type de celle de Bouygues Télécom, le seul opérateur qui vous permet de changer de smartphone tous les ans. Donc là, c'est des vrais puces au crime. Mais techniquement, le smartphone peut durer 5 ans. La colonisation d'imaginaire par le marketing est telle que les consommateurs, on ne les oblige pas, physiquement en tout cas. Voilà, j'arrive plus à... Ah oui, sortir de la machine. Alors, je suppose que ce que vous appelez la machine, c'est-à-dire c'est le système, la logique du système, hein, la méga-machine. Bon, évidemment, on ne peut pas en sortir, puisqu'on est dedans. Hein, on peut négocier, effectivement, une sorte de niche à l'intérieur. C'est à la fois important pour trois raisons, par hygiène de vie, parce que, malgré tout, ça a un petit impact, même si c'est pas ça qui va changer le monde. Et puis, ça nous habitue, en fait, à vivre, déjà, à ce qu'on sera condamné à vivre dans quelques années, quand on sera rentré dans le mur. Et c'est un bon exemple à donner. Je veux dire que la valeur exemplaire, je suis assez sceptique. J'ai pas de téléphone portable, je le fais bien savoir. J'ai jeté ma télévision depuis longtemps, j'ai jamais fumé. Bon, je pratique ce que mon maître Ivan Illich appelait l'askésis, le techno-jeûne. On ne peut vraiment... réussir à maintenir un minimum de liberté, d'autonomie qu'en pratiquant le techno-jeûne. Donc ne plus pas parler comme la trois quarts de nos contemporains avec l'oreille collée à une prothèse. Et je regarde l'effet que ça fait sur mes enfants, l'effet d'exemple. Je dois dire que c'est très limité. Hein. Nous avons lié, nous, les sociétés occidentales, industrialisées, capitalistes, il faut bien le dire, nous avons lié le destin de l'emploi à l'existence d'un taux de croissance supérieur à 3%. Donc, il nous faut un taux de croissance supérieur à 3%. Quand le taux de croissance n'est pas égal à 3%, nous ne créons pas d'emploi et nous en détruisons. Les taux de croissance supérieurs à 3%, nous ne les connaîtrons jamais plus. C'est fini. Alors, la croissance, elle a existé, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, effectivement, au détriment de la nature et du tiers-monde, mais ça a existé au bénéfice de la classe ouvrière, des patrons et de l'État entre 1945 et 1975. C'est probablement quelque chose comme les étoiles mortes. Les étoiles mortes, elles nous envoient encore leur lumière, parce qu'elles sont à des millions d'années-lumière de nous, et donc nous ne savons pas qu'elles sont mortes. La croissance est morte, on ne sait pas exactement quand, probablement entre 73 et 75, dans ces années-là, quand le fordisme est mort, avec la première crise du pétrole. Mais nous ne le savons pas encore, parce que nous recevons encore la lumière. Alors nous avons connu après ces 30 glorieuses, ce que certains ont appelé les 30 piteuses, qui ont été une sorte de fiction, une croissance fiction. Et donc nous avons fait une fuite en avant dans un monde fictif qui est essentiellement une bulle financière gigantesque, puisque nous avons créé finalement jusqu'à 15, 20 fois l'équivalent du produit mondial en créances. Et donc, on a alimenté une croissance statistique. On a eu des courbes, les chiffres ont continué à augmenter. Le bien-être, non. Toutes les études montrent qu'à partir de 73, le bien-être diminue. Nous gagnons plus, mais nous devons dépenser plus pour maintenir un niveau de vie inférieur. Sauf, évidemment, les très riches. Hein, mais le 1% des plus riches. Mais pour le reste, même les classes moyennes se sont paupérisées réellement. Elles ont gagné plus, mais elles ont dû acheter plus de médicaments pour ralentir le cancer, pas en avoir moins, mais ralentir. Donc nous avons, c'était fondé sur la spéculation boursière et la spéculation immobilière. Effectivement, quand les terrains et les immeubles valent beaucoup plus cher, le PIB augmente, mais c'est toujours les mêmes immeubles et les mêmes terrains. Le bien-être n'augmente pas pour autant. Et c'est ce qui s'est passé pendant 30 ans. La décroissance, c'est un projet pour sortir de ce cauchemar. La forme, le symptôme le plus dramatique de ce cauchemar, d'une société de croissance sans croissance, ce qui est la pire des choses, parce qu'une société de croissance avec croissance, comme nous l'avons connue dans les 30 Glorieuses, au moins ça créait le plein emploi. Une société de croissance sans croissance, c'est tragique, puisqu'il y a du chômage, c'est une tragédie. En France, vous avez tous les jours des chômeurs qui se suicident, désespérés. On taille dans tous les budgets... Ces budgets qui donnent un minimum de qualité de vie dans une société capitaliste avancée, c'est-à-dire le budget de la culture, le budget de l'éducation, le budget de la santé. Donc c'est l'enfer. Pour paraphraser Hannah Arendt, elle disait Il n'y a rien de pire qu'une société travailliste sans travail. On est là. Alors, notre société de croissance a lié son destin à la croissance. Il faut se dégager de la liaison de notre destin à la croissance. Si on veut interdire l'obsolescence programmée, il faut pouvoir définir exactement ce qu'on interdit. La voiture, elle tombe jamais en panne tout entière. Vous avez la courroie de transmission qui pète, mais c'est pas la voiture. Et la courroie de transmission, c'est pas Peugeot qui l'a fait, c'est un fournisseur. Alors évidemment, Peugeot a un cahier de charge pour le fournisseur. Il s'adresse à un fournisseur qui fera une courroie de transmission qui coûtera moins cher et qui sera pas très solide. Mais de toute façon, ça n'a pas d'intérêt pour lui de faire des trucs qui seront très solides puisque les gens auront changé de modèle. L'addiction consumériste qui est complice de la recherche de la vente accélérée des produits par les producteurs fait qu'on est dans une chaîne. Il y a tout un cercle vicieux qui fait que les gendarmes trouvent des moyens pour verrouiller des trucs, etc. Les voleurs trouvent toujours des moyens de percer le coffre-fort. On en vend toujours, il y a une escalade comme ça. Plus que l'interdiction, qui ne mange pas de pain, mais qui aura sans doute pas des effets absolument... c'est d'obliger les durées de garantie des produits. À l'heure actuelle, pour le matériel électrique et électronique au niveau européen, la durée est de 2 ans, de garantir 5 ans. En même temps, une autre mesure, c'est d'obliger les producteurs à fournir des pièces pour réparer pendant 5 ans ou 10 ans, hein, même si le modèle des stocks de pièces doivent être fournis, etc. C'est des mesures assez techniques, toutes simples, qui ont d'ailleurs été déjà à l'origine des premières mesures contre l'obsolescence programmée aux États-Unis dans les années 60. Une chose aussi importante, mais là, pour ce qui est du matériel qu'on appelle équipement électrique et électronique, EEE, eh bien, ça sera très difficile, ils résistent énormément, ils sont même prêts à payer des amendes pour désobéir à la loi. Les producteurs connaissent eux. Le producteur, enfin celui qui dirige l'ensemble, connaît la durée de vie du produit. Donc d'afficher la durée de vie du produit. Le produit est conçu pour avoir une durée de vie de temps. Obligé d'afficher la durée de vie, c'est déjà... Alors, si on veut vraiment lutter contre ça, comme on cherchait à le faire les Allemands quand les Verts étaient au gouvernement il y a quelques années, il y a des moyens, des techniques d'incitation et bien sûr de répression. Développer le leasing, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter les équipements, les gens les louent. Alors ça change complètement la logique, parce que si l'entreprise met l'équipement à votre disposition, qu'elle en reste propriétaire, eh bien elle n'a pas intérêt à ce que ça tombe en panne, hein, donc elle a intérêt à faire quelque chose de solide, et elle n'a pas intérêt à réinvestir pour le changer, etc., puisqu'elle fait son bénéfice sur le prix de location et les frais d'entretien. Alors, l'éco-conception, donc, effectivement, c'est l'idée que l'entreprise conçoit ses produits, que le souci de la durabilité du produit et de l'économie à la fois d'énergie et de matières premières soit pris en compte dès la conception même. Évidemment, imposer un produit éternel, c'est s'empêcher de profiter de l'éventuel progrès technique. Mais en général, quand on passe d'une génération d'un produit à un autre, le changement porte sur moins de 10% du produit. Entre l'ordinateur précédent, la précédente génération et le suivant, il y a 90% qui pourraient être conservés si le produit était conçu comme un jeu de construction, c'est-à-dire par des modules, ce qu'on appelle une conception évolutive du produit. Ensuite, le concevoir de façon réparable, donc avec l'idée qu'on peut le décomposer Bon, et l'idéal, effectivement, ça serait de déboucher sur une économie circulaire, comme dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Mais il est clair que là, on se heurte à un système qui est totalement schizophrénique. C'est-à-dire que vous avez dans notre société un ministre de l'Environnement qui va dire, bon, il faut économiser les ressources naturelles pour toutes les raisons qu'on sait, la planète est en train de mourir, etc. Hein, les ressources vont manquer, on n'a pas de, y a plus de pétrole, et donc il faut développer toutes ces mesures pour lutter contre les essences programmées, tandis que le ministre de l'économie, lui, il dit, ben, moi j'ai besoin d'emploi et que les entreprises tournent à plein, va développer la prime à la casse. Donc en ce qui concerne la voiture, il serait bien d'introduire une prime à la durée et donner une prime aux gens qui conservent leur voiture 10 ans, 15 ans. Oui, mais d'un autre côté, pour l'économie, il faut au contraire donner une prime aux gens qui la mettent au rancard au bout de 6 mois. Vous voyez, on est dans une situation totalement schizophrénique. Il n'y a pas de remède vraiment solide, sérieux, durable pour lutter contre l'obsolescence programmée que le changement de logiciel. Le changement de logiciel, c'est-à-dire sortir du logiciel de la croissance pour la croissance, et par conséquent construire une société basée sur l'autolimitation, sur la frugalité volontaire, l'abondance frugale, c'est-à-dire une société de décroissance, mais comme dirait Rudyard Kipling, ça c'est une autre histoire.